suis pas Eric Denimal, mais simplement quelques mots d'introduction d'Eric. Eric est un ami depuis de très longue date. Donc c'est avec grand plaisir en fait que je le retrouve ici pour cette série. Eric est en fait de formation pasteur. Il a exercé le ministère pastoral à deux ou trois reprises dans les églises en France, dans l'Union des Églises Libres. Mais Eric surtout a développé au cours de sa carrière une plume. Et c'est quelqu'un qui a écrit un certain nombre de livres, des livres pour les chrétiens, des livres pour les non-chrétiens, des livres pour les jeunes, des livres pour les plus anciens. Et cela a amené à exercer aussi un ministère dans des organisations comme la Ligue pour la lecture de la Bible, que beaucoup d'entre vous connaissez certainement principalement pour le guide de lecture quotidienne, mais qui édite aussi un certain nombre d'ouvrages tous les ans. Et puis Eric a aussi été journaliste pour le journal Le Christianisme au XXe siècle, qui pendant de nombreuses années était un des deux hebdomadaires protestants qui était distribué et vendu parmi les protestants en France. Et il a assumé donc la charge de rédacteur. Et dans cette capacité-là, et c'est une des choses que j'admire le plus chez Eric, c'est sa capacité à écouter le monde dans lequel il vit, et dans lequel nous vivons, et en particulier la France, et d'essayer de trouver comment est-ce que l'Évangile parle ou peut être une réponse aux préoccupations et aux questions de nos contemporains. Et donc c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'on lui a demandé de venir ici pour nous aider à comprendre ou mieux comprendre ce que signifie annoncer l'Évangile dans notre monde aujourd'hui qui change, qui bouge énormément. Et comme signe peut-être de la capacité d'Eric à pouvoir entrer dans ce dialogue, vous trouverez au fond cet ouvrage dans la série que peut-être vous connaissez tous, qui est la série pour les nuls. Mais Eric est celui qui a rédigé cet ouvrage qui est vendu maintenant dans la plupart des librairies non chrétiennes, qui s'appelle « La Bible pour les nuls », c'est-à-dire comment rendre accessible le message de la parole de Dieu à des personnes qui, pas comme nous, ont été élevés dans un milieu qui ne connaissent absolument rien à l'écriture. Et si on en croit les chiffres de vente, c'est quand même quelque chose qui attire encore la curiosité et l'intérêt de la part de nos contemporains. En rapport peut-être avec les deux études que nous avons eues hier ensemble, je voudrais simplement vous livrer quelques idées pour vous qui n'étiez pas avec nous, et ça vous donnera peut-être envie d'écouter l'enregistrement que nous avons sur le site. Hier dans l'après-midi, nous étions en train de réfléchir, ou Eric était en train de nous aider à réfléchir sur quelle est la nature véritable d'annoncer l'Évangile dans le monde aujourd'hui. Et entre simplement essayer de rapatrier des gens dans nos églises ou alors de leur apporter une bonne nouvelle et une solution. Et des choses qui m'ont frappé dans ce qu'Éric a dit hier, c'était que le Seigneur nous donne en tant que chrétiens la capacité de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Et que le monde qui se cherche beaucoup n'arrive pas à trouver le sens de son histoire. Mais nous avons la capacité, de par la parole de Dieu, de comprendre les temps dans lesquels nous sommes et donc d'apporter une réponse au monde dans lequel nous vivons. Mais il y avait avec ça une responsabilité qu'Éric a très bien illustrée avec l'histoire de Joseph, c'était que nous devons nous-mêmes donc entrer dans cette histoire. On ne peut pas simplement rester en dehors et dire, voilà ce qui est en train de vous passer, nous on reste en dehors, maintenant débrouillez-vous. Et que comme Joseph, il faut remonter nos manches et entrer dans l'histoire, accompagner les hommes et leur montrer où est le sens de cette histoire. Hier soir aussi, Eric parlait aussi de « Qui dit-on que je suis ?» et Jésus, et il nous a posé cette question. Qu'est-ce qui nous surprend encore dans la lecture de l'Évangile? Qu'est-ce qui nous surprend encore, qui nous pousse, en fait, à dire comme l'apôtre Pierre, nous ne pouvons ne pas parler. Parce que nous avons vu des choses, nous avons entendu des choses. Et il y a des choses qui nous surprennent encore et qu'on a envie de dire. Et Eric nous invitait donc à de nouveau nous laisser émerveiller et interpeller par l'Écriture, parce que c'est de l'abondance de notre propre cœur que nous pourrons parler. Puis une troisième chose qui m'a frappé et à laquelle je réfléchis aussi, c'est que Eric il parlait un petit peu, lorsque Paul parle à des Juifs, il a un auditoire qui comprenne bien ce qu'il est en train de dire. Puis un jour, il est allé voir des Athéniens, des gens d'une culture complètement différente. Et là, il y a eu le plus de problèmes à communiquer avec eux. Et Eric nous disait, en fait, il faut que nous soyons prêts aujourd'hui à reconnaître que notre monde, ce sont des gens qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, et que nous devons faire un effort peut-être encore plus important que dans les générations précédentes pour arriver à surmonter ces différences qu'il peut y avoir entre le monde dans lequel nous vivons et notre propre culture. Et là, un troisième point qui me paraissait vraiment intéressant aussi, c'est que Eric nous disait, en fait, il y a aussi beaucoup de choses où nous ressemblons à nos contemporains. Nous ressemblons à nos contemporains. Il faut trouver dans nos ressemblances avec les hommes autour de nous des ponts que nous pouvons utiliser pour proclamer l'Évangile. Pas toujours peut-être se mettre en retrait et dire « nous sommes différents », mais au contraire dire « nous avons des choses que nous partageons avec les gens qui vivent autour de nous dans notre génération et que c'est l'occasion et l'opportunité de leur parler ». Donc je voudrais laisser la parole maintenant à Eric pour la dernière partie de son étude qui est sous le titre « Passons de l'autre rive ».
Purée, ça avait l'air d'être intéressant. Je vais réécouter les enregistrements. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour partager cette parole. Et je ne vais pas faire trop de préambule parce que finalement j'ai pas mal de choses à partager ce matin. Avec cette idée, effectivement, en tant que chrétien, nous devons aller vers les autres. Le problème, c'est que c'est drôlement difficile d'aller vers les autres. Même si on est rempli de l'amour de Dieu, l'autre est un étranger. Et parfois, un étranger étrange. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus a pleinement conscience de cela, et il veut nous encourager quand même à aller à la rencontre de l'autre. Et on va voir dans l'évangile de Marc particulièrement qu'aller à la rencontre de l'autre, ça pose problème. Même Jésus a rencontré des problèmes. Alors, bon ben voilà, si lui a rencontré des problèmes, nous sommes prêts à affronter aussi ces problèmes. En même temps, vous verrez tout au long de ce développement, vous verrez de quelle façon on peut aussi lire la Bible. J'ai travaillé donc avec la Ligue pour la lecture de la Bible pendant 10 ans, et vous savez qu'un des principes de la Ligue, c'est on prend un petit bout et on réfléchit, on médite ce petit bout, et puis demain on passe à un autre petit bout. En général, c'est quand même la suite. Le problème, c'est que bien souvent, à force de saucissonner le texte, on oublie de voir qu'il y a des veines transversales qui sont tout au long de l'Évangile. Et pas simplement, voilà un petit bloc, un enseignement, puis un autre petit bloc. Ce n'est pas du Playmobil, ce n'est pas un enseignement sur un autre qui vient. Il y a bien sûr un enseignement sur un autre qui vient, mais il y a de façon continue des fils conducteurs tout au long de l'Évangile qu'il faut repérer. Et nous ne sommes pas nécessairement capables ou habitués à repérer. Alors moi, je vous encourage à être un peu comme Colombo. Ça surprend, hein? Bon, soyez pas complètement comme lui parce qu'il est mort. Mais même si vous n'avez pas un bon par-dessus, ayez un petit bloc-notes et puis notez. Oui, mais au fait, il y a un petit détail là. Ma femme m'a dit que... Et dans le texte biblique, il y a des petits détails comme ça qui passent un peu rapidement, et on pense que c'est simplement, bon ben voilà, le narrateur est en train de raconter, il faut bien qu'il fasse des liaisons, il faut bien qu'il fasse... Non, il y a aussi des clins d'œil permanents. Et c'est plus facile pour les gens qui ont la culture hébraïque de saisir cela parce qu'ils ont l'habitude de cette façon de dire. Tandis que nous n'avons pas tout à fait la même culture, nous sommes plutôt cartésiens, et nous ne sommes pas sémites. Et nous ne sommes pas capables parfois de discerner l'histoire dans l'histoire. Et dans les évangiles, je constate qu'il y a une multitude de poupées russes, c'est-à-dire une histoire dans l'histoire qui est encore dans une histoire. Alors, avançons. Dans l'évangile de Marc, quand on lit... Dans l'évangile de Marc, quand on lit rapidement, on peut repérer certaines choses qui sont comme des petites choses qui doivent résonner. Dans l'évangile de Marc, par exemple, à 3 reprises, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté. » Passons de l'autre côté. Et quand on regarde c'est quoi l'autre côté, alors vous allez comprendre parce que c'est de l'autre côté du lac. Maintenant, on ne va pas plus loin, hein, ne faites pas trop d'analogies, parce que de l'autre côté du lac, dans l'évangile, c'est les païens. Je ne sais pas où est le lac de Genève. Il est par là? De l'autre côté du lac, de Genève en tout cas, sont les Suisses. Aucun rapport. Enfin, s'il y en a un, c'est fortuit. Mais de leur côté, ils peuvent dire, de l'autre côté du lac, il y a les Français. Bon, c'est les païens. De l'autre côté, en fait, quand on regarde au niveau de la géographie, on se rend compte que le lac, que Marc appelle la mer de Galilée, et c'est en fait le lac de Tibériade, c'est la même chose. C'est comme le lac Léman, le lac Genève, on ne sait jamais. C'est la même chose. Le lac devient une espèce de 13e personnage important autour de Jésus. Disons, un lac, ce n'est pas un personnage. Mais vous allez voir que ça en devient un. Parce que quand il dit « passons de l'autre côté », il dit « bon, ben, nous sommes du bon côté quelque part. Nous sommes du côté juif. » Et quand on est du côté juif, on est du côté pur. Je fais rapide, hein. On est du côté du peuple de Dieu, du peuple élu. Tandis que de l'autre côté du lac, c'est le côté impur. C'est le côté païen. C'est le côté monde. C'est le monde. Et voilà que Jésus dit, passons de l'autre côté. Et ce qui est intéressant dans l'évangile de Marc, trois traversées. Trois. À chaque fois qu'il y a le chiffre 3, il faut se rendre compte que ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Et à chaque fois que Marc va nous raconter ses traversées, vous pouvez les retrouver, ces traversées. Hein. Je vous donne rapidement des références pour ceux qui doutent de moi, et ils ont raison. Pas tout le temps, mais Marc 4, 35, le soir de ce même jour, il leur dit « passons sur l'autre rive ». Marc 6, 45, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Chapitre 8, verset 13, puis il les quitta et reprit le bateau pour regagner l'autre rive. À chaque fois, on passe de l'autre côté et Marc va raconter à chaque fois ce qui se passe pendant le trajet aller. Étonnamment, il ne raconte jamais comment se passe le retour. Ça, c'est assez intéressant. L'autre chose, l'autre constante, c'est que à chaque fois qu'il raconte l'aller de l'autre côté, il y a un problème. Il y a un problème. Et ça va devenir intéressant parce qu'on va se rendre compte que aller vers l'autre, qui en plus est l'étranger, le différent, le pas élu, c'est toujours difficile. Et ce n'est pas sans danger. Jésus parle avec ses disciples, il parle avec la foule pendant longtemps. C'est au chapitre 3 de l'évangile de Marc, début du chapitre 4. Et puis à la fin d'une journée assez remplie, finalement, où il a parlé de paraboles, où il a parlé de pureté, d'impureté, et ça aussi, c'est une chose intéressante, il parle sans cesse de la pureté et de l'impureté, avec en plus les pharisiens qui viennent toujours, comme les renseignements généraux, en train de surveiller ce qui se passe. Et puis il dit, donc au chapitre 4, il dit « passons de l'autre côté ». Et vous savez qu'après cette parole, il monte dans la barque. On va lire le texte, on va de temps en temps lire le texte quand même pour assurer. Chapitre 4, verset 35. « Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples « passons de l'autre côté du lac ». Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. Évidemment. D'autres bateaux les accompagnaient. Tiens, souvent on oublie complètement qu'il y avait d'autres bateaux. Enfin bref. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Comme je vous l'ai dit, première traversée, première difficulté. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui dirent « Maître, nous sommes perdus, tu ne t'en soucies pas !» Il se réveilla, parla sévèrement, rabroua le vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples « Mais pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte et se disaient « Mais qui est donc cet homme qui commande même au vent ?» Et à la tempête. première traversée, première difficulté. Et il faut comprendre une chose intéressante que l'on oublie ou que l'on ne sait pas, c'est un peu la même chose, c'est que pour un juif, même où on croit au Dieu très haut, il y a des superstitions. Et parmi les superstitions, qui sont parfois fondées sur les textes de l'Ancien Testament, on pense qu'au fond des mers siègent les démons. Et à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, on voit que c'est du fond des mers que monte le diable, le Satan, le Léviathan, le serpent, le Loch Ness, enfin bref. C'est du fond des océans que sortent. Et donc les Juifs, qui ne sont pas un peuple de marins comme les Phéniciens par exemple, ont très peur de ce qui se passe sous le niveau de la mer. C'est la raison pour laquelle, dans les bonnes traductions, Marc parle toujours de la mer plutôt que du lac. Parce qu'il veut faire un petit tilt dans la tête. Vous savez, c'est la mer. Vous savez ce qui se passe au fond des mers? C'est le siège des démons. On va aller de l'autre côté, chez les impurs. Ça dérange. Ça dérange. Alors, il ne s'agit pas de faire de la démonologie à 3,50 francs ou à 3,50 euros. C'est à peu près la même chose aujourd'hui. On s'est fait avoir. Enfin bref. Prenez conscience, il y a une opposition. Il y a une opposition. Le fait que ce lac, cette mer, soit comme en colère, c'est que finalement, les démons, parce qu'on est superstitieux, ne veulent pas que Jésus aille de l'autre côté. Ils ne veulent pas. D'ailleurs, de l'autre côté, c'est le monde, c'est les démons. Et on va voir la preuve de cela, parce que de l'autre côté du lac, qu'est-ce qu'on trouve? Oh, une des pages les plus glauques de l'évangile de Marc. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Vous noterez au passage qu'on a l'impression qu'il est le seul à débarquer. C'est très intéressant, on a l'impression que, oulala, on n'est pas chez les gens purs, là. On va se salir, on va être contaminé, on va se salir les pieds, c'est très dangereux, on va être touché, on va attraper toutes ces... On ne débarque pas, on ne met pas le pied là, on a trop peur. Jésus débarque, il y a de quoi avoir peur, parce qu'aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à leur rencontre. Et là, vous avez un personnage glauque, un zombie, à foutre la pétoche. Là, d'un seul coup, on est dans un livre d'horreur. Il est fou à lier, mais on n'arrive pas à le lier. Tellement il est fort. Il vit dans les tombeaux. Attendez, mais c'est Halloween ou quoi? Il est dangereux. C'est un homme qui s'automutile. C'est un homme qui vit nu, qui est hirsute. Moi, je le vois avec une barbe, avec la bave. Enfin, vous imaginez le truc. Un peu vert. Il y a de quoi avoir peur. Et on a la preuve, là, qu'on est véritablement dans le monde, dans toute son horreur. On a l'impression que Marc, on va mettre une couche. Allez, il est déchaîné. Même les chaînes ne l'attachent pas. Enfin, il est fou, il est fou, fou, fou. Personne ne parvient à le maîtriser. Et puis là, il arrive une conversation complètement surréaliste. Jésus discute avec ce fou, mais ce n'est pas le fou qui parle, c'est celui qui est dedans. Et celui qui est dedans, il n'est pas tout seul, il est légion. Ouais. D'où l'expression, hein, quand il y a beaucoup de monde, ils sont légion. C'est de là que vient cette expression. Ils sont beaucoup, multiples. C'est quoi ce bonhomme? Et l'esprit mauvais dit, « Que nous veux-tu, fils du Dieu très haut ?» 5 minutes avant, dans la barque, les disciples se demandent, « Mais qui est Jésus ? Qui est-il finalement ce type, qui est capable même de commander à la tempête ?» 10 minutes plus tard, les démons disent, « Que veux-tu, toi, fils du Dieu très haut ?» Eux, ils savent qui il est. Je t'en conjure. Je te prie, disent certaines versions. Ah, voilà, les démons se mettent à prier. je te prie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Non, mais c'est complètement surréaliste cette histoire. Ça ne vous étonne pas? Vous lisez ça et après vous allez faire l'évangélisation. « Allez, je vais te raconter une histoire superbe, tu vas voir. Ah, génial !» On va demander à Spielberg de faire un livre, un film là-dessus. « Quel est ton nom ? Je m'appelle Légion. » Et puis finalement, ces démons demandent à Jésus de partir, de quitter ce corps pour aller où ? Dans un troupeau de porcs. On est vraiment en terre impure. Il paissait là un troupeau de porcs. L'expression qui est utilisée, c'est un grand troupeau de porcs était en train de paître. Attends, vous avez vu un troupeau de porcs en train de paître ? Des agneaux, oui, c'est évangélique. C'est évangélique du bon côté du lac. Mais du mauvais côté du lac, ce sont des porcs. Et voilà que ces esprits impurs vont dans des animaux impurs. Pourquoi faire ? Pour se jeter dans le lac. Parce que comme l'homme s'automutilait, s'autodétruisait, parce que c'est la volonté de l'esprit impur, c'est l'autodestruction, c'est détruire les personnes en qui ils sont, quand ils sont dans les moutons, quand ils sont dans les porcs, ils se jettent à l'eau parce que au fond des mers est le siège des démons. Et ils s'en vont dans la baie des cochons. Et l'homme est guéri. L'homme est libre. L'homme est dans son bon sens. Et les propriétaires du cochon arrivent en disant « Ah, oh, ça va pas ? Fiche le camp. » Les démons avaient dit « Nous, on veut bien partir. » Et les gens de l'autre côté du lac disent « Nous, on ne te veut pas. Rentre chez toi. Retourne. On ne te veut pas. » C'est intéressant de voir que de ce côté-là du lac, tout est en chaos. Personne n'est chez lui. Le démon n'est pas chez lui dans un homme. Les démons ne sont pas chez eux dans un cochon. Et Jésus, manifestement, n'est pas chez lui. De la même façon que tout est connotation. Hein. Je m'appelle Légion. Ça veut dire je suis un Romain, l'occupation romaine, qui n'est pas non plus à sa place. Enfin, personne n'est à sa place dans ce texte. Et voilà que Jésus est obligé de repartir. Les démons ont prié, ils ont été exorcisés. Nous voulons partir. Ok, d'accord, allez. Hop. Et puis, les gens ont prié Jésus de partir et Jésus répond à cette prière, il s'en va. Et puis l'homme qui a été guéri, il prie aussi Jésus. Il y a trois prières de ce côté-là du lac quand même. Ah, il est bien ce démon, enfin ce démoniaque qui est guéri. Il dit, allez, moi je veux aller avec toi, je te prie, prends-moi avec toi. Et Jésus refuse. C'est surprenant quand même. Il accepte la prière des démons, il accepte la prière des gens, qui refusent qu'il soit là. Et puis cet homme qui voudrait le suivre, il dit non, non, reste, reste. Et en fait, il dit, je ne peux pas rester moi, on ne veut pas de moi. Mais toi, témoigne. Témoigne. Tu sais pourquoi ? Parce que je vais bientôt revenir. Parce que dans l'évangile de Marc, il y a trois traversées. On n'en est qu'à la première. Enfin, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas sous ce ton-là que les choses se disent, naturellement, mais vous comprenez un petit peu. Parce que Jésus a de la suite dans les idées. Jésus est le maître de l'histoire, il contrôle l'histoire, il sait très bien. Alors ils vont de l'autre côté, du bon côté. Du bon côté, tout se passe bien, on est entre gens bien élevés, on est au milieu du peuple élu, c'est bien, tout va bien. Bon, on se pose encore quelques questions sur la pureté, l'impureté, etc. Et puis Jésus, il a du succès, les gens viennent l'écouter, c'est super. Les disciples sont en train de se dire, purée, on a eu chaud, hein, de l'autre côté, purée, faudra que je te raconte un petit peu, c'est glauque là-bas. Ouh. Enfin, chacun ses choix et les cochons seront bien gardés. Enfin, c'est de là d'ailleurs que vient l'expression « les cochons ne seront pas bien gardés », justement. Enfin bref, Et il va se passer, là, à ce moment-là, un événement assez intéressant parce que Jésus, il prêche. On continue la suite de l'histoire. Hein. Jésus prêche, il prêche parfois longtemps. Et puis, au bout d'un certain temps, les disciples disent « Oh, non, il faut que je me dépêche aussi. Il va falloir quand même qu'on s'arrête. Hein, parce que ça fait déjà des heures et des heures qu'ils sont là. Et il faudrait qu'ils rentrent chez eux, ils commencent à avoir faim. Enfin bref, on ne peut pas s'occuper de tout ça, ça suffit. » Et là, on va arriver à la multiplication des pains. Vous connaissez bien cette histoire. Jésus dit d'abord, donnez-leur vous-même à manger. Philippe, qui a fait les comptes, dit, mais il faudrait acheter pour tout le monde. C'est la seule fois dans l'évangile de Marc où Philippe parle. La parole de Philippe, quand on est disciple, c'est important hein, de ce qu'on dit. Enfin, la phrase de Philippe, elle est quand même assez courte. Faut-il dépenser autant d'argent pour tout le monde? On dirait qu'il est trésorier. Et Jésus dit, oui, donnez-leur vous-même à manger. Oh, mais on n'a rien, enfin, vous connaissez l'histoire. Et il va y avoir la multiplication des pains. L'histoire du petit garçon, très gentil, il va proposer son casse-croûte. Heureusement, maman avait préparé, enfin, juste pour moi. Il est quand même beaucoup, là. Et il va y avoir cette multiplication des pains, sur lequel j'insiste pas pour le moment, sauf que... Elle est où, cette multiplication des pains? Merci de suivre. Voilà. C'est très intéressant, cette multiplication des pains avec 5 pains et 2 poissons. Jésus réussit à nourrir tout le monde. Vous avez cette parole, hein, faut-il que nous allions acheter pour 200 deniers du pain et que nous leur donnions à manger? 200 deniers, c'est l'équivalent de 200 jours de salaire. Ça voulait dire entre nous que si Jésus avait dit oui, il aurait sans doute fallu les sortir, ces 200 deniers. Et sans doute qu'ils y étaient dans la poche du trésorier. Parce que si le trésorier est piqué dans la caisse, il fallait bien qu'il y ait du fric dans la caisse. Hein? Bon, enfin bref. Il y a la multiplication des pains. Et puis il y a, on ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y a eu 12 paniers pleins. Il restait aussi quelques poissons. Et après cette multiplication des pains, Jésus renvoie la foule et lui, il dit, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac. Allez, vous allez me précéder de l'autre côté du lac. Et les disciples y vont. Et Jésus, lui, monte sur la montagne et il va prier. C'est la nuit. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'à la tombée de la nuit, la barque se trouve au milieu du lac et la barque n'avance pas parce qu'il y a des vents contraires. Deuxième traversée, deuxième difficulté. Il y a des vents contraires. Et Jésus, sur la montagne, dans la nuit, voit les disciples qui rament. Pour ramer, ils rament à contre-courant, mais ils rament. Ça me rassure de savoir que même dans la nuit, Jésus peut voir si je suis dans une galère. Et là, il se passe quelque chose d'assez intéressant, c'est que Jésus va rejoindre ses disciples, à pied, évidemment. On a tous fait ça. Et là encore, on voit à quel point, tout en croyant un petit peu au Dieu et peut-être un peu en Jésus, qu'on peut continuer à avoir la pétoche et avoir quelques superstitions. Parce que quand il voit arriver Jésus, un fantôme. Un fantôme, c'est pas évangélique, un fantôme, arrête. On croirait un truc de TF1. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et ils étaient pris de panique. Et Jésus arrive, il monte dans la barque et ça se calme. Évident, franchement. On dirait vraiment un mauvais scénario d'une chaîne de télévision qui ne sait faire que ça. Alors il se mit à leur parler. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Bien sûr, c'est évident. On n'aurait pas dû s'affoler. Il y a le vent, il y a la tempête, on rame, on est à contre-courant, on voit un type qui marchait au lot, il monte. Bah, Pourtant, il y avait du pain, des poissons, il n'y avait pas de pastis. Le vent tomba. Alors là, franchement, le vent tomba. Ils en furent frappés de stupeur. Ils ont des problèmes cardiaques, ces 12-là. Enfin bref. Car, ils avaient vu un fantôme? Non. Ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau? Non. Ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. T'as vu ça, Brian? T'avais vu ce qui avait étonné? Les pains. Ils ont un TGV de retard. C'est normal. Ils sont toujours en retard, les TGV. Mais leur intelligence était aveugle. Enfin, voilà, c'est évident, quoi. Vous avez vu marcher quelqu'un sur l'eau. Bon. Et ce qui vous étonne, c'est l'épisode précédent. Je vous ai dit, Hiram. La traversée, on va garder ça en tête, hein. Gardez ça en tête, parce que c'est pas simplement pour rigoler qu'il y a ça. Il y a quelque chose là, hein. Bon. La traversée achevée, ils touchèrent terre à Génézareth. D'accord. Verset 53. Verset 45 plus haut. Ils vont de l'autre côté vers Bethsaïda. On part pour Bethsaïda en face, de l'autre côté, et on arrive à Génézareth. Si vous regardez une carte, ils ont tourné en rond. Ils ne sont jamais arrivés de l'autre côté. Ils ne sont jamais arrivés de l'autre côté. On revient au point de départ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris l'affaire des pains. Parce que mon intelligence est encore obscurcie ou aveugle. Pourquoi aller de l'autre côté quand on n'a pas encore résolu les problèmes de ce côté-ci? Alors on revient. Et de ce côté-là, à nouveau, les scribes, les pharisiens sont là et ils reposent des questions sur la pureté, l'impureté, etc. Et les scribes, les pharisiens discutent et disputent Jésus en disant « Hé, t'as vu tes disciples? Ils mangent avec les mains sales. » C'est vachement grave. Ils font pas bien. Et on pourrait... Et Marc qui raconte l'histoire, il faut que j'accélère, excusez-moi. Marc qui raconte l'histoire au chapitre 7, de même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Et il raconte un petit peu ce que font les scribes et les pharisiens, tellement ils sont purs et veulent rester purs. En rentrant du marché, oh, vite, vite, on se lave, monsieur propre. Et puis il continue, ils ont reçu beaucoup d'autres traditions, ils observent plein de choses et ils lavent rituellement les coupes, les pots, les vases, etc. Et ils leur jettent d'un air de dire, vous ne trouvez pas qu'ils exagèrent un peu? On parle simplement, ils ne se sont pas lavé les mains pour manger, et puis Marc insiste en disant, ils font ça, et il faudrait faire ça, et ça encore. Et vous ne trouvez pas qu'ils font un peu beaucoup? Et d'ailleurs, Jésus va dire, écoutez, arrêtez avec vos traditions. Il ne dit pas avec les traditions, mais avec vos traditions. Ce que vous avez transformé les lois en traditions, et vous avez enfermer les gens de plus en plus dans cette notion de pureté. Pour rester pur, il faut se protéger, il faut pas se mélanger, il faut se nettoyer, il faut aucune trace. Il faut finalement s'enfermer pour se protéger. Et Jésus dit tout le contraire. Il faut s'ouvrir, il faut aller de l'autre côté. Il faut aller vers les autres. Il y a d'un côté un enfermement tellement on veut se garder pur. Et de l'autre côté, il faut un éclatement pour aller vers les autres. Même dans la baie des cochons. Et là, Jésus va dire hypocrite. Vous pourrez continuer à lire le texte, mais voilà. Et puis, Jésus retourne de l'autre côté, mais sans passer par le lac. Cette fois-ci, il passe par la terre. Et de l'autre côté, ils sont quand même de l'autre côté du lac. C'est très intéressant. Il faut que je fasse vite, pardon. C'est qu'il va y avoir une deuxième multiplication des pains. Il y a une deuxième multiplication des pains. Et cette deuxième multiplication des pains, elle a cette particularité d'être à la fois identique et différente de la précédente. Première grande différence, c'est qu'elle n'est pas au même endroit. C'est que la deuxième multiplication des pains, géographiquement, elle se passe du côté impur. du côté païen. Et là, au bout d'un certain temps, chapitre 8, verset 2, après avoir beaucoup parlé, après avoir beaucoup enseigné, Jésus dit, j'ai pitié de cette foule, cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et n'ont rien mangé. 3 jours qu'ils sont là et qu'ils n'ont rien mangé. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car chacun d'eux est venu de loin. Au bout de 3 jours, c'est Jésus qui prend conscience qu'il faut peut-être faire quelque chose pour ces gens. Dans la première multiplication des pains, au bout d'un certain temps, ce sont les disciples qui ont pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Dans la deuxième multiplication, c'est Jésus. Et là, je vois une différence très importante. Quand on est entre nous, du bon côté du lac, on s'occupe volontiers des frères. Mais quand on est à l'étranger, les étrangers, on ne s'en occupe pas. On ne fait pas attention. Et c'est là où Jésus doit, lui, prendre l'initiative. Il faut faire quelque chose pour eux. Alors les disciples, ça devrait faire tilt quand même dans leur tête, parce que, attends, on a déjà vécu ça quand même. On dirait une rediffusion. Où pourrait-on trouver, dans cet endroit désert, assez de pain pour nourrir tous ces gens ? Combien avez-vous de pain ? Leur demanda-t-il. Je ne sais pas, hein, moi, ça éveillerait quelque chose dans ma mémoire. Bon, 7. Alors il invita tout le monde et il y a une deuxième multiplication des pains. Et puis, détail toujours intéressant, c'est les restes. Moi, j'aime bien les restes. On ramassa 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Il y avait aussi encore 4000 personnes à cet endroit. Et puis, on retourne de là où on vient, après la deuxième multiplication des pains. On retourne du côté pur. Et du côté pur, les pharisiens arrivèrent et engagèrent une discussion avec lui. Ils lui demandèrent de faire des signes. Les pharisiens demandent des signes. On a 2 multiplications des pains. On a des guérisons. On veut des preuves supplémentaires. Et Jésus poussa un profond soupir, verset 12. Je suis exaspéré. Plus nul, tu meurs. Déjà, Nicodème, qui était un prêtre, etc., je lui demandais, mais toi qui connais, tu ne sais pas. Mais là, on a envie de dire, mais ils sont aveugles ou quoi? Ils ne voient pas. Il n'y a pas pire aveugle que ceux qui décident de ne pas voir, n'est-ce pas? Il paraît que les murs ont parfois des oreilles. Mais je crois que les oreilles ont parfois des murs. On ne veut pas entendre. On ne veut pas comprendre. Alors, il les quitta, remonta dans la barque et partit pour l'autre rive. 3e traversée. On arrive vers la fin, hein? Ouf. Jésus leur recommanda, faites bien attention. Jésus est exaspéré, hein? Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. Et les disciples discutaient entre eux dans la barque. De quoi discutent-ils dans la barque? Les disciples discutaient entre eux. Il dit cela parce que nous n'avons pas de pain. Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi? C'est quoi encore cette histoire de pain? Il faut que je reprenne, excusez-moi, au verset 14. Les disciples avaient oublié d'emporter du pain. D'accord? Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Bon, ils n'ont pas de pain, mais ils en ont un. Et puis ils discutent, on a oublié le pain. Et Jésus dit, vous discutez parce que vous n'avez pas de pain, mais pourquoi? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre? Ne vous souvenez-vous pas ? Et là, on revient aux multiplications des pains. Quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5 000 hommes, combien de pains, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? Et Jésus insiste sur les restes. Pour une fois, les disciples sont capables de répondre. 12. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4 000 personnes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7. Et vous ne comprenez toujours pas ? On va sûrement avoir la solution. Hein ? Eh ben non, ils ont passé à autre chose. Vous ne comprenez pas ? Si eux ont compris, moi je me pose la question. Vous avez compris ? C'est quoi cette histoire des pains contre un bal et contre un bal pas, etc. Là encore, il faut comprendre un certain nombre de choses. C'est que les 7 et les 12 sont des chiffres importants pour le juif. Le 7 et le 12 ont la particularité d'être l'association, en quelque sorte, du 4 qui est le chiffre de l'homme et de 3 qui est le chiffre de Dieu. 4 et 3, 7. 4 fois 3, 12. Le 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la totalité et de la perfection. Le monde est créé en 7 jours. Le 12 dans la Bible, c'est naturellement un rappel très important des 12 tribus d'Israël. Et Jésus reprend un petit peu cette logique avec les 12 disciples. Alors, voilà. Du côté juif, il reste 12 corbeilles, comme les 12 tribus, comme finalement l'ensemble d'Israël. Donnez-leur vous-même à manger. Vous avez quelque chose à apporter à tout Israël. Mais de l'autre côté, 7. 7, c'est le chiffre de la totalité, c'est le chiffre du monde entier. Donnez-leur vous-même à manger. Je vous laisse des restes suffisants pour tous. Et ce qui est intéressant, là, c'est de dire, oui, mais quel pain ? À la fois dans le bateau, il y en a et il n'y en a pas. N'est-ce pas ? Les disciples avaient oublié d'emporter du pain, ils n'en avaient qu'un, un seul avec eux dans la barque. C'est marrant, parce qu'on parle de ce pain comme si c'était une personne. On a un pain avec nous, avec eux dans la barque, un seul avec eux dans la barque. Il n'y a pas de pain, mais en fait, il y a un pain qui se partage. C'est Jésus-Christ lui-même qui se partage. D'un côté du lac comme de l'autre. Il y a une multiplication des pains, il y a une bénédiction particulière d'un côté du lac comme de l'autre. Et les disciples qui ont du mal à comprendre que de l'autre côté du lac, côté impur, les bénédictions sont quand même les mêmes que du côté pur, sont obligés de comprendre qu'il faut oser aller de l'autre côté parce que pour l'autre côté, il y a les mêmes bénédictions en réserve. Alors on peut avoir peur, bien sûr, de traverser le lac. Mais lors de la deuxième traversée du lac, quand Jésus marche sur le lac, il dit à sa façon, les ennemis qui sont là en dessous, je les ai vaincus, je marche dessus, comme un vainqueur marche sur une armée vaincue. Alors, n'ayez pas peur, n'avez-vous pas encore compris ? De part et d'autre du lac, il y a un peuple qui doit être nourri. Donnez-leur vous-même à manger. Ne décidez pas que ce n'est que d'un côté qu'il y a mes bénédictions. Mes bénédictions sont des deux côtés. Dans l'évangélisation, nous devons prendre conscience que Dieu a en réserve des bénédictions extraordinaires pour des gens qui ne sont pas du bon côté du lac. Et pourtant, il y est allé, il a vaincu, et il nous demande maintenant de distribuer les restes. Je suis le pain de vie, je suis le pain descendu du ciel. Prenez et mangez, ceci est vraiment une nourriture. Amen.